RCF.
Bonjour, amis auditeurs, auditrices de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, sous le patronage d'Agora Défense, dans le cadre du Berry se raconte. Aujourd'hui, nous recevons M. Taboada Alvarez, Jean-Marie, dans une vie antérieure, jeune sous-lieutenant au 273e RIMA en Algérie, entre 1960 et 1963. Capitaine honoraire, au parcours de vie singulier, attachant, émouvant. Bonjour, Monsieur Jean-Marie Taboada.
Bonjour.
Alors, j'ai rencontré Jean-Marie Taboada et son épouse lors du vernissage de leur exposition de peinture dans un village proche de Bourges. Nous avons parlé, j'ai écouté, Taboada, ce nom en Berry m'a interpellé. Votre histoire m'a bouleversé. En effet, vous êtes d'origine espagnole, avec un père né en Galice, une mère des Asturies. Nous sommes en 1936, votre père est officier dans l'armée espagnole, mais laquelle, monsieur Taboada?
L'armée franquiste.
L'armée franquiste.
L'armée franquiste.
Et alors?
Et alors, la guerre se déroule avec de nombreuses péripéties. Et je ne sais pas, mon père ne me l'a pas dit, mais à un moment donné, mon père, à cause de ses, ou pour ses convictions politiques, a changé de camp. Il a déserté avec sa compagnie, avec 130 hommes et sous-officiers, il a déserté du côté républicain. Donc, il s'est battu contre les fascistes. Et à la dernière bataille qui a eu lieu dans la Sierra Morena, aux environs de Madrid, c'est là qu'il a été blessé.
Alors, quelle blessure?
Il a reçu un éclat d'obus à la jambe droite au-dessus du genou.
Alors, racontez un petit peu ce qui se passe. Il est recueilli sur le champ de bataille.
Il est recueilli sur le champ de bataille dans une petite chapelle. Il se retrouve sous deux couches de morts, enfin de corps. Il avait deux corps sur lui. Il est revenu à lui. Il a crié. À ce moment-là, des brancardiers l'ont récupéré. Mais manque de chance, c'était des brancardiers fascistes. Il s'est donc retrouvé dans un hôpital de campagne, de fortune. Et compte tenu des galons qui lui restaient, il avait arraché ses galons. Et il lui restait son grade gravé dans l'étui revolver. Donc ils ont vu qu'il était officier républicain. Et à ce moment-là, au lieu de le soigner, ils ont apparemment, d'après ce qu'a dit mon père, et d'après des médecins qu'il a vus en France, où il aurait pu être opérable, ils auraient pu enlever cet éclat d'obus, ils ont décidé de lui couper la jambe au-dessus du genou. C'est au moins quelqu'un qui ne l'aurait pas couru après, apparemment. Hein. C'est de l'humour noir, mais ça semble être ce qui s'est passé.
L'aventure qui suit est assez, elle aussi, émouvante. Votre père, avec votre maman, vont franchir les Pyrénées dans des conditions dantesques. Et le mot est faible. Pouvez-vous me les expliquer?
Ils ont déjà traversé à pied. Je ne sais pas combien de jours ça a duré, peut-être presque deux ou trois semaines. Mon père s'est évadé de l'hôpital parce qu'il savait que de toute façon il n'avait aucune chance de s'en sortir. Donc il s'est évadé et avec des compagnons dans un groupe où il y avait ma mère qui faisait office d'infirmière bénévole, ils ont traversé les Pyrénées à pied. Pour la petite histoire, il se soignait de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il urinait dans des morceaux de tissu et il enveloppait son moignon, tout ça sans aucun calmant, sans aucun médicament. Il est arrivé dans la région de Perpignan avec de nombreux camarades dans un camp de concentration. En 1939.
Alors, vos parents, comme des milliers de réfugiés espagnols, vont aller de camp en camp. Vous, Jean-Marie, si vous permettez que je vous appelle Jean-Marie,
bien sûr,
vous naissez à Angoulême.
C'est exact.
Et vous vous retrouvez, vous et votre famille, près d'Orléans. C'est cela ?
C'est cela.
Alors, quels sont les souvenirs que vous avez, vous, enfant ?
Alors, enfant, les premiers souvenirs que j'ai, mon père avait trouvé du travail dans une scierie, sur une jambe, donc il travaillait le bois dans une scierie. Le patron de cette scierie lui avait fabriqué un petit chalet en bois. On habitait là-dedans. C'était à la fin de la guerre des années 44, quand sont arrivés les Américains.
Oui.
Et notre chalet était à 2 petits kilomètres d'un aéroport américain.
Oui.
Et j'étais tout gamin, devant ce chalet, je voyais passer les avions le soir.
Oui, c'était...
Et atterrir, c'était très impressionnant.
Très impressionnant.
Oui. Et dans le ciel, on entendait les bombardiers allemands ou américains qui passaient. C'est le premier souvenir que j'ai d'enfance.
Et qui restait vraiment bien prégnant en vous. Hein.
Très, très proche.
Alors, des parents courageux, un père musicien.
Oui, il jouait de la trompette. Oui.
Ouais.
Il jouait dans des bandas quand il était jeune en Espagne.
D'accord. Vous êtes à l'école. Vous êtes un bon élève. Alors, comment ça se déroule votre scolarité ? Quand je sais que vous dites que vous êtes bon élève, c'est vrai. Alors, dites-moi tout. Ne cachez rien.
pas meilleur qu'un autre.
Ah, si,
mais
si, si.
C'était à Courciologe. Quand je suis arrivé à l'école, je ne parlais pas un mot de français parce que chez nous, on vivait pas cloîtré, mais je ne fréquentais pas les autres enfants. Donc, je ne parlais pas un mot de français à 5 ans. Et à la fin de la première année, j'étais premier de la classe. Donc, j'ai appris le français à l'école. Mais il faut que je dise une chose, je n'ai pas eu de problème d'intégration dans cette école.
Vous avez été bien accepté ?
J'ai toujours été bien accepté à l'école. En dehors de l'école, c'était une autre affaire.
Mais à l'école, vous avez toujours eu des maîtres, des maîtresses qui ont toujours été à votre écoute et très attentifs à vous.
C'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui m'a sauvé au cours de ma vie d'enfant et de jeune homme. C'est de tomber sur des enseignants qui ont été pour moi une chance énorme.
Je sais par ailleurs que les conditions de vie de vos parents et de sa famille, parce que vous n'êtes pas le fils unique, hein, il y a eu ensuite, je crois...
Un frère, une sœur.
Et malheureusement, vous avez connu un drame.
Oui.
Vous avez perdu une petite sœur.
Une petite sœur.
Et qui a fait que vos parents ont quitté.
On avait quitté ce village à l'âge de 7 ans.
Oui.
Mais on a quitté ce deuxième village à l'âge de 14 ans. C'est là qu'on avait perdu cette petite sœur.
Petite
et on
sœur.
A quitté ce village pour aller dans la région de Blois.
Ah, justement.
Voilà.
À Blois. À Blois, je pense que vous réussissez votre certificat d'études primaires.
J'étais bon élève, j'ai failli ne pas l'avoir.
Ah, expliquez-moi parce que c'est intéressant. Ça,
je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Vous avez été stressé ?
Peut-être. Ou alors trop confiant.
Vous êtes à Blois ?
Oui.
Donc, il n'est pas question de poursuivre des études supérieures. Vos parents n'ont pas les moyens.
Non, mon père me dit, maintenant que tu as ton certificat, trouve-toi, puisque tu veux faire de la mécanique automobile, trouve-toi un garage, fais le tour des garages de Blois et trouve-toi une place d'apprenti.
Expliquez-moi.
Alors là, je suis tombé sur une première étoile, qui était une bonne étoile pour moi, une assistante sociale, qui a dit à mes parents, il faut que ce gamin-là fasse des études. Donc elle s'est débrouillée pour me faire avoir une bourse, elle m'a acheté des vêtements, tout l'équipement qu'il fallait pour un jeune. Et j'ai été admis à Vendôme dans un centre d'apprentissage.
Et à Vendôme, vous avez passé un ou plusieurs CAP ?
J'ai passé 3 CAP, un CAP de mécanique automobile, un CAP d'électricité automobile et un CAP de dieseliste.
Et là, il y a une personne qui vous remarque et qui se prend d'affection pour vous.
C'est
et qui s'occupe de vous comme un père, si j'ose dire.
C'est Monsieur Raffard, c'est-à-dire le
chef des travaux, je crois.
Chef des travaux du centre d'apprentissage de Vendôme, avec 2 autres copains, qui a fait des pieds et des mains pour que l'on continue et qui nous a fait aller au lycée Augustin Thierry à Orléans.
Où là, vous passez ?
Un brevet industriel première et deuxième année.
Première et deuxième.
Sur 2 ans. Ce qui m'a amené à 19 ans.
À 19 ans, vous êtes en pleine forme. Qu'est-ce que vous faites à 19 ans ?
À 19 ans, je trouve du travail chez Citroën,
oui.
Aux établissements Citroën. Ensuite, entre-temps, je passe devant le conseil de révision.
À Blois.
À Blois. Et je me retrouve au 5e RI, le régiment d'infanterie qui est à Blois, où j'ai fait 3 mois de classe.
Alors, justement, vous êtes sélectionné pour faire donc l'école d'officier de réserve. C'est bien ça ?
Non, tout d'abord, je suis sélectionné pour le pentathlon.
Pentathlon, voilà.
Pentathlon, parce que j'étais assez sportif. On faisait 4 pas par jour, on était soignés comme des coqs en pâte.
Est-ce que vous aviez fait du sport avant dans votre scolarité ?
Oui, j'ai fait beaucoup de hand, j'ai fait du sport tout le temps.
Depuis
l'âge de 7 ans, j'ai toujours fait du sport. Et j'en ai 77 et j'en fais toujours.
Et vous en faites toujours ? Alors, une question que je vais vous poser, est-ce que vos parents étaient fiers de votre réussite, là, vous, le fils de réfugié espagnol dans des conditions ? Est-ce qu'ils vous l'ont dit, vos parents ?
Ils ne me l'ont pas dit, ils me l'ont fait sentir, mais ils ne me l'ont pas dit. De toute façon, pour eux, j'étais leur sauveur, j'étais soutien de famille. C'est ce que mon père avait dit avec un grand S. Donc, il n'y avait pas trop de félicitations.
Merci, Monsieur Trabotta, pour ces témoignages empreints d'émotion et de vérité. Nous nous retrouverons pour une seconde émission où vous témoignerez de votre engagement de citoyen au service de la France dans ce conflit algérien où des milliers de jeunes Français se sont retrouvés pour de longs mois. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de votre fidélité à l'écoute de RCF Berry. Bonne semaine à vous.
Merci à vous.